Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue sur Studio ZEF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Ludivine qui a créé
Atelier La Chaume. Merci Sophie de m'accueillir.
Ludivine, avant d'être créatrice de l'Atelier La Chaume, dont tu nous parleras plus tard, avais-tu une autre vie professionnelle ou sortais-tu de tes études ?
Non, j'avais une autre vie. J'étais responsable import-export, en fait, pour la société Dubuis, qui est basée à Blois, et qui faisait partie à l'époque du groupe Stanley Black & Decker, une entreprise américaine, plutôt dans le BTP. Moi, mon secteur d'activité, c'était dans l'industrie, et les produits que je vendais étaient vraiment destinés au BTP. Donc, je suis restée 6 ans dans cette entreprise où j'ai appris énormément parce qu'en fait je suis rentrée dans cette entreprise à la fin de mon stage de master. J'ai fait un stage là-bas de 6 mois qui m'ont gardée et je suis rentrée en tant que stagiaire et finalement je suis ressortie en tant que manager. Donc ça a été une belle progression dans cette entreprise avec pas mal de voyages parce que vu que j'étais à l'international, j'ai pu faire beaucoup de voyages dans mon expérience. C'était hyper enrichissant, j'ai appris énormément de choses. Mais à un moment donné, il y a eu cette petite remise en question qui fait que voilà, j'ai voulu faire autre chose et autrement.
Alors, tu parles d'un master. Qu'est-ce que tu as fait comme master ?
J'ai commencé donc avec une licence LEA à Tours, qui est assez connue. Et ensuite, j'ai fait un master affaires et négociations internationales à Lille. Donc, j'ai vécu après 2 ans à Lille. J'ai pourtant cherché des stages à Lille parce que je comptais rester là-bas. J'aimais beaucoup la ville, la culture lilloise, etc. Et finalement, en faisant mes recherches de stages, j'en avais quand même envoyé quelques demandes sur Blois. Et c'est chez Dubuis, du coup, que j'ai pu avoir mon stage. Donc, c'est pour ça que je suis revenue après dans la région.
Déjà, à la base, t'es voyageuse. Ça crée chez toi déjà une façon de voir le monde qui est particulière.
Ouais, moi j'aime beaucoup le voyage. C'est vrai que j'aime le voyage en tant que tel, de découvrir voilà une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, etc. Et au-delà de ça, j'aime aussi aller à la découverte de nouvelles personnes. En fait, moi mes racines déjà, j'ai mon papa qui est portugais, donc il y a aussi ce côté un petit peu qui fait que j'aime aussi les différentes cultures. Ma maman, elle est d'origine espagnole, donc voilà, il y a tout ce côté un petit peu mélange culturel à la maison et qui fait que j'ai gardé ça et j'aime voilà voir les différentes façons de voir de chacun et comprendre des fois aussi pourquoi ils pensent comme ça, enfin voilà, j'aime creuser un petit peu tout ça aussi.
Effectivement, une origine comme ça polyethnique, hein, comprends pourquoi tu as fait un LEA. Et après, donc te voilà partie dans un monde quand même qui est très structuré. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lassée ?
En fait, avant ça, quand j'étais au lycée, ça a commencé un petit peu là, ce côté plutôt artistique. J'aimais toujours beaucoup dessiner, j'ai toujours eu un crayon à la main. Quand on voit mes cours d'école, ok, il y avait mes cours qui étaient écrits, mais c'était jonché de plein de petits dessins autour. Donc j'avais fait une option, voilà, histoire de l'art, art plastique. Et à ce moment-là où on se pose la fameuse question, après le bac, qu'est-ce qu'on fait ? Je voulais faire une école d'art sur Paris, qui était assez coûteuse et à l'époque voilà je pouvais pas financièrement faire ce que je voulais faire, donc il y a eu ce questionnement de se dire bon quoi faire du coup. Et donc là j'avais pris une année de césure, j'ai fait un an de jeune fille au pair en Angleterre où en fait ça m'a permis un petit peu de réfléchir et de me poser les questions en fait qu'est-ce que j'avais envie de faire, et j'aimais beaucoup la culture anglaise, parler anglais, etc. Donc en fait c'est aussi pour ça que je suis revenue vers LEA. Et après dans toute ma partie chez Dubuis, ça a été à un moment donné où je me suis dit j'ai envie d'avoir du sens aussi dans ce que je fais, dans ce que je crée. Même ma période quand j'étais à l'université, je m'étais toujours dit un jour je serai entrepreneur. J'ai eu plein d'idées de me dire oh je vais créer ça, je vais créer ça. Et j'avais déjà rencontré mon mari à l'époque et je lui disais oh et si on montait cette entreprise, et j'avais toujours plein d'idées. Et puis après finalement je suis rentrée dans le monde du salariat, ça s'était un peu calmé et à un moment donné ça s'est réveillé. Enfin vraiment je pense avec 2020, confinement. J'ai eu ma fille en 2020. Elle est née le 8 mars en plus, donc une date importante en plus pour moi. Et là, en fin de compte, ça a été tout un chamboulement. Je me suis dit, ok, je veux faire du sens. Je veux vraiment... faire quelque chose qui m'importe, que je puisse peut-être transmettre à d'autres personnes et même à ma fille plus tard, tout ça, et lui montrer qu'en fait, le monde de l'entreprise peut être un monde où on se sente bien. Parce que dans le salariat, j'avais quand même beaucoup de collègues autour de moi qui avaient un certain mal-être. Et moi, je voulais pas vivre ça, en fait. Je voulais pas me dire tous les matins, peut-être avoir une certaine boule au ventre, anxiété ou être mal. Et en fait, je me suis dit, c'est pas ça que je veux lui montrer. Je veux lui montrer que le travail, c'est bien. Et on peut avoir des belles rencontres, on peut faire de belles choses. Et c'est en fait de là un petit peu qu'est né ce petit chamboulement pour changer de voie.
L'entrepreneur, elle était de toute façon en toi depuis toujours.
Ouais, je pense. Oui, ouais.
Il y a une culture salariale dans ta famille ou plus entrepreneuriale ?
Salariale.
Donc, tu n'as pas suivi un exemple, tu n'es pas partie en te disant, bon, je l'ai vu faire par les autres, donc je sais que c'est faisable.
Non, pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça me vient, parce que dans ma famille, ouais, y a vraiment plus une culture salariale qu'entrepreneuriale. Ouais.
Tu décides que tu vas monter ta boîte, tu as eu plein de projets, et bien à un moment donné, tu te dis, ah, c'est cette idée-là que je vais retenir. Et cette idée-là, c'est quoi ?
En fait, c'est à ce moment-là de ma grossesse, ça m'a fait ralentir forcément, et c'est là un peu où je me suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Ok, je veux créer quelque chose à moi, mais quoi? Et en fait, je me suis retournée un peu vers mes premiers amours du dessin et aussi le fait d'aménager, de créer, etc. Moi, j'ai toujours été une passionnée du patrimoine, mais vraiment de découvrir quand on rentre dans une maison. Comprendre comment les gens vivaient à l'époque, en quelle année cette maison a été construite, pourquoi, est-ce qu'il y a un moment de l'histoire, elle a été réquisitionnée pour quelque chose. Enfin, j'aime creuser toute cette partie-là et je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un métier dans ce secteur. Et ce qui se présentait à moi, en fait, c'était justement architecte d'intérieur. Et donc, j'ai repris mes études à partir de 2020, donc je venais d'accoucher. Et donc, en fait, j'ai repris mes études en distanciel pour pouvoir combiner ma nouvelle vie de maman, cette nouvelle formation. Et puis à ce moment-là, j'avais pris un congé parental, ce qui me permettait quand même de rester un certain temps à la maison, en plus avec ma fille. Donc voilà, ça s'est fait à ce moment-là.
Cette formation, elle dure combien de temps ?
Alors cette formation, elle dure 2 ans, mais j'ai pas attendu la fin de la formation pour créer mon entreprise, en fait. J'y croyais dur comme fer, en fait, je sais pas, enfin c'était peut-être un peu fou parce que c'était un pari quand même. Voilà, j'avais une bonne position et de me dire, tu te lances dans l'inconnu, c'est un peu le saut quand même dans le vide. Mais ouais, cette formation dure 2 ans, donc en distanciel. En plus de ça, je complète la formation qui était dispensée par cette école par une autre formation qui était faite par une architecte d'intérieur déjà établie. Plutôt sur la partie justement suivi de chantier, donc qui n'était pas donné dans l'école. Sur l'école, on était plus sur la partie logiciel, couleur, enfin voilà, plutôt ce genre de thème et pas forcément pratico-pratique avec la partie vraiment comment gérer un chantier, comment gérer des clients, enfin voilà. Donc ça, je l'ai fait plus dans un second temps avec une archi d'intérieur.
Est-ce que tu as eu envie et est-ce que tu as fait financer tes études ?
Alors, j'ai posé la question à Pôle emploi et non, malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Mais par contre, ils m'ont guidée vers la BGE et je suis encore aujourd'hui accompagnée par la BGE. Et pour moi, ça a quand même été un réel soutien parce que même si j'avais fait des études commerciales, j'avais jamais vu le fait de le faire en tant qu'auto-entrepreneur. En fait, j'avais pas forcément ce côté-là vraiment de construire un projet. Donc voilà, je me suis fait assister par la BGE et ça a été vraiment hyper positif pour moi en tout cas.
Donc, tu es sous couveuse, j'imagine ?
Non, je suis dans le grand bain direct. Après, j'avais Pôle emploi parce que j'ai pu négocier avec mon entreprise une rupture conventionnelle. Donc, c'est la chance que j'ai eue parce que voilà, j'ai quand même eu du chômage pendant quasiment 2 ans. Donc, ce qui faisait un petit peu le tampon en fait pour commencer l'activité. Et puis, bien sûr, j'avais le soutien de mon mari. Hein. Je dis toujours, notre partenaire de vie, en fait, il doit quand même être dans le projet. On l'embarque malgré tout parce que voilà, on avait une situation avant. D'un coup, après, on a plus rien au départ, hein, faut être clair, et de se dire que c'est vraiment une décision qu'on prend quand même à deux de se lancer là-dedans, quoi.
Alors justement, tu as une situation qui est plutôt, on va dire, un peu en or, hein, tu es jeune, et là tu annonces à tout le monde autour de toi que tu vas te mettre en tant qu'entrepreneur. Alors on entend bien que ton mari te suit, mais comment réagissent les gens en général ?
Et bah, à ma surprise, très positivement. Ils me font confiance, c'est fou, mais même mes parents, je vois, c'est mes premiers, c'est mon premier pilier, hein, vraiment. Ils sont derrière moi à fond. Dès que j'ai quelques doutes, ils m'encouragent. Et même ma famille en général, je suis quelqu'un qui est très proche de sa famille. Nous, c'est vraiment un noyau dur. Et vraiment, tout le monde me soutient. Et c'est vraiment une super force et une chance en or d'avoir ça. Parce que je sais que pour certains, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que moi, j'ai une gratitude infinie envers ma famille. Parce qu'ils me donnent de la force tous les jours.
Qu'est-ce que fait ton mari à l'heure actuelle ?
Alors, mon mari, il est responsable financier. Dans une entreprise à Blois.
On est vraiment dans un cas de figure où il y a le salarié et l'auto-entrepreneur à la maison.
Ah bah c'est ça. Puis lui, il n'a pas du tout un profil auto-entrepreneur. Il aime bien sa position en tant que salarié. Ça lui convient bien. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a un bon équilibre aussi au quotidien.
Comment tu mets ta vie de maman à l'heure actuelle dans l'ensemble ?
Alors ça, c'est tout un sujet. Je suis encore en train de chercher parfois le bon équilibre. Au tout début, je m'étais dit, je vais garder ma fille avec moi les mercredis. Et finalement, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible. Parce qu'avec mon quotidien, en fait, j'ai beaucoup de rendez-vous quand même à l'extérieur. Et avoir une journée par semaine off, en plus, c'était clairement pas gérable. Et puis travailler avec elle, un enfant demande beaucoup d'attention, ce qui est normal. Là, ce que je cherche, en fait, vraiment, c'est de me dire, quand je passe des moments avec elle, je suis vraiment dans l'instant présent. J'essaye de me détacher de toute pensée qui peuvent être liées à l'entrepreneuriat et on va dire que c'est les seuls moments où je pense pas à mon entreprise. C'est quand j'essaye vraiment d'être avec elle dans l'instant présent, parce que sinon, je pense que comme tout entrepreneur, on est toutes on se lève le matin, c'est la première chose à laquelle on pense, on se couche, on y pense, c'est hyper présent quoi, donc voilà, j'essaye de gérer ça au mieux et prendre aussi des vacances avec elle. Enfin, je vois en avril l'année dernière, on était partis une semaine que toutes les deux en vacances parce que mon mari commençait un nouveau travail donc il pouvait pas nous accompagner. Et c'était génial de me dire, je coupe, je prends cette semaine que avec elle et voilà, c'est du temps de qualité. Il y a des soirs, je peux pas faire les couchers par exemple parce que soit on a des soirées réseautage ou des choses comme ça. Je sais que j'ai un autre pilier qui est à la maison qui peut prendre soin d'elle et ce qui me fait ne pas culpabiliser aussi parce qu'il y a ce fort sentiment parfois auprès des femmes de se dire c'est à la maman d'être présente, de faire ci, de faire ça. Et je me dis son papa il se débrouille super bien, il est génial, c'est son pilier aussi à elle, elle a deux piliers et en fait le fait qu'il soit là, il me soutienne aussi là-dedans, je pense que c'est hyper important.
Le réseautage, tu parles aussi.
Oui.
Déjà tu es soutenue par la BGE mais... Comment réseautes-tu à l'heure actuelle ?
Il y a eu plusieurs phases parce qu'en fait, au tout début où j'ai commencé, j'avais fait un premier test chez la BNI qui était assez intéressant par rapport à mon cœur de métier, mais par rapport moi, mon planning, c'était chaud parce que c'est le vendredi matin à 7h, donc clairement, pour moi, c'est pas forcément possible. Et en fait, petit à petit, le réseautage s'est fait un peu naturellement au fil des rencontres. J'ai rejoint à un moment donné l'association Femmes 41, qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai fait des rencontres vraiment en or là-bas. Et c'est pareil, la BGE, j'ai fait des rencontres en or là-bas. Et au fur et à mesure, les rencontres que j'ai fait m'ont apporté d'autres rencontres. Et aujourd'hui, ce qui fait que créer des petits événements entre nous, officiels ou non officiels, et ce qui fait que ça marche comme ça. Aujourd'hui, je fais partie de l'association Madame. Et c'est pareil, je trouve que c'est un groupe de nanas qui est juste génial. Et on s'apporte aussi beaucoup via ce réseau-là.
Le réseautage, ça vient donc, tu as dit empiéter sur ta vie de maman. Est-ce qu'il y a d'autres mamans dans la journée où tu peux être prise par quelque chose qui correspond effectivement à ce besoin de réseautage ? Enfin, ça prend combien de temps dans ton emploi du temps, tu sais ?
Je ne saurais pas forcément dire. Après, c'est du réseautage entre entrepreneurs, mais moi j'ai aussi tout ce côté réseautage aussi avec les artisans parce que moi pour moi la partie artisan, fournisseur, partenaire est hyper importante. Donc en fait il y a des fois aussi dans la journée où je vais aller voir des fournisseurs par exemple de papier peint ou de sol pour un client et puis au final je vais rester un peu plus longtemps pour discuter, pour créer ce lien. Je pense que dans le métier, en tout cas, que je fais, pour moi, le réseau est hyper important. Et je m'entends très bien avec certains électriciens ou plombiers. On va des fois s'appeler juste pour se dire comment ça va en ce moment ? Est-ce que tu as du business ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? En fait, c'est entretenir toujours ce lien. Je pense qu'il est hyper important. Même des fois, là, en janvier, c'était juste s'appeler pour se souhaiter les vœux. Entretenir ce lien, en fait.
Ton ou ta première cliente ? Qui était-ce ?
Alors, mes parents en off, mais je pense qu'on débute tous plus ou moins comme ça. Et après, c'était l'ancienne entreprise de mon mari qui m'a fait confiance. Et j'ai redécoré chez eux la salle de pause et une grande salle de réunion. Donc ça a été génial parce que du coup, il m'avait laissé un petit peu carte blanche. Donc son ancien boss, franchement, une super personne qui m'a vraiment fait confiance. Et c'était génial parce que faire un pro en plus en premier, c'est pas forcément donné à tout le monde parce qu'il faut réussir à rentrer dans l'industrie. Et ça a été un chouette projet. Ou d'ailleurs, grâce à ce projet, je l'ai fait une super rencontre qui est une partenaire de business encore aujourd'hui. C'est Keltoum Duga, de Danse avec les fleurs. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble via ce projet parce que du coup, elle réalise des tableaux en végétaux stabilisés. Et moi, je lui avais demandé de faire ça pour cette entreprise-là. Donc, deux tableaux autour d'une fenêtre et des dalles au plafond en végétaux stabilisés pour avoir ce côté un peu nature justement dans la salle de pause. Et du coup, on a commencé à travailler comme ça. Donc, première chance top. Et en plus, je gagne une super rencontre, donc super positif.
À l'heure actuelle, où sont tes vitrines ? Où est-ce que tu peux montrer ce que tu fais ?
Alors, mes vitrines, une de mes premières vitrines, ça reste mon site web. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent me voir grâce à mon site internet. Et ma deuxième vitrine, c'est ma boutique. C'est un showroom en fait que j'ai ouvert à Chouzy-sur-Cisse, la commune d'où je viens. J'ai ouvert ce showroom en mai de l'année dernière, en 2024. Donc du coup, j'y travaille, c'est mes bureaux. Et en plus de ça, c'est donc un showroom boutique. Je le nomme un peu comme ça parce qu'en fait, tout ce qu'on trouve dans ce lieu est à vendre. Je l'ai meublé, décoré que grâce à des partenaires qui m'ont fait confiance, qui m'ont prêté des pièces, donc des canapés, des chaises, des tapis, des toits, de différents éléments qui sont présents dans le showroom et qui sont disponibles en plus à la vente. Donc c'est amené aussi à changer avec des collections qui sont différentes.
Quel est le nom de ton site internet ?
C'est atelierlachaume.com.
Tout simplement.
Tout simplement, voilà.
Alors Lachaume, ça s'écrit ?
Lachaume.
À Chouzy, c'est où exactement ? C'est dans la ville ?
Ouais, en fait, c'est le 12 bis place de la mairie, donc vraiment juste à côté de la mairie. Une belle place du coup, parce que il y a le parking qui est juste devant, donc on a vu directement sur le local.
Les entrepreneurs, quand elles commencent, elles ont leur chez elles qui leur sert de bureau. Toi, tu as pu séparer, t'as séparé assez vite. Hein. Tu m'as dit 2024, mais ça faisait combien de temps vraiment que tu étais en train de travailler ?
J'ai créé mon entreprise le 1er février 2022. En 2024, s'est présentée l'opportunité. Keltoum avait sa boutique florale dans Chouzy, dans ce local, et ensuite elle a déménagé sur Blois et elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait pas de t'installer là ? La mairesse, donc Catherine L'Héritier, m'a fait confiance, elle m'a dit vas-y, j'aime ce que tu fais, j'aime ton concept, donc installe-toi. Et puis je suis là depuis temps, et c'est vrai qu'en fait on a un autre rythme de travail parce que une fois qu'on rentre le soir, il y a quand même certains soirs où je travaille, mais je veux dire, j'ai quand même plus tendance à fermer mon ordi et de me dire justement quand ma fille rentre de l'école, là je coupe, je passe ce moment avec elle jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Et puis après, peut-être que des fois, je vais retravailler. Mais au moins, je suis à la maison, présente vraiment avec elle quand elle rentre de l'école. Et quand je suis au showroom, c'est vraiment là où je suis à 200% pour Atelier Lachaume.
Tu parlais donc de partenariat, de gens avec qui tu travailles. Tu travailles surtout avec le Loir-et-Cher ou tu es amenée à aller chercher des fournisseurs ailleurs ?
Je suis beaucoup quand même avec le Loir-et-Cher. Je reste beaucoup quand même en local, aussi bien pour les fournisseurs que les clients. J'ai eu quelques demandes dans le 45, 37 très peu. Mais même pour mes fournisseurs, j'essaie de rester très local parce que c'est toujours mon souhait en fait, de faire travailler en local, de soutenir localement. On a des talents de fou ici, donc autant en profiter. Et au fil des rencontres, je fais beaucoup de décorations intuitives, donc ça veut dire beaucoup lié à l'intuition. Et c'est pareil avec les personnes, en fait. Je travaille beaucoup au feeling, donc si ça passe bien, je suis prête à vendre la personne comme pas possible, vraiment la recommander plus, parce que on se sera bien entendu. Et bien sûr, il faut qu'elle travaille bien aussi derrière, ça c'est sûr, mais je suis vraiment dans l'entraide aussi à ce niveau-là.
Donc, on a vraiment une émulsion très locale et intéressante. Tu nous as dit tout à l'heure que ton premier client était pro. À l'heure actuelle, comment ça se passe ? C'est plus des pros ou c'est plus diversifié ?
Alors, c'est plus du particulier à l'heure actuelle. J'ai fait quelques pros, mais justement, ça reste quand même pas mal du particulier. Après, de plus en plus, j'aimerais aller vers du pro. Là, en 2024, j'ai fait par exemple le salon de thé au château à Blois. qui est juste en face du château de Blois. Là, on est en train de terminer aussi un hôtel-restaurant qui est à Saint-Denis-sur-Loire, qui va ouvrir courant 2025. Il y a quelques projets pro qui se sont faits, mais ça serait quelque chose voilà, que j'aimerais bien développer sur 2025.
Au niveau particulier, tu te retrouves à refaire une déco de maison complète ou plutôt une pièce spécifique qu'ils ont envie de revoir ?
Alors en fait, c'est vraiment au cas par cas. Ça peut être une pièce. Là, récemment, il y a une maman qui m'a appelée parce qu'elle a son fils de 3 ans, elle veut lui refaire sa chambre parce qu'elle vient d'acquérir une nouvelle maison. Elle me demande des conseils sur les couleurs, l'aménagement. En plus, elle veut faire un truc un petit peu particulier avec un petit mur d'escalade, un truc assez chouette. Donc là, elle me demande du conseil sur par qui passer comme artisan pour les peintures, où trouver le matériel adéquat, aider pour l'installation et tout. Et sinon, en général, c'est ça, c'est de la rénovation complète. Donc là, on rentre plus dans mon métier d'architecte d'intérieur. Avant, c'était plus sur de la déco. Et dans mon métier d'architecte d'intérieur, c'est plus justement remodeler les espaces, travailler vraiment sur plan et vraiment côte à côte avec les artisans. Parce qu'en fait, moi, je propose des choses par rapport à ce que j'ai imaginé, mais je reste en fait toujours ouverte à l'expertise de l'artisan. L'artisan, s'il est électricien, il a son expertise d'électricien. Donc moi, si je lui propose un truc, je suis toujours à l'écoute de ses idées parce que c'est lui l'expert en fait. On travaille vraiment de pair sur les projets comme ça. Et donc quand c'est de la rénovation globale, donc il y a toute cette partie plan, et ensuite vient la partie travaux, et si les clients le souhaitent, je fais aussi la partie déco finale, la petite cerise sur le gâteau à la fin.
Est-ce que tu utilises les réseaux, genre Instagram, LinkedIn et autres?
Alors Instagram, oui, je suis assez présente sur Instagram. Alors après, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps de faire toute cette partie-là. LinkedIn, j'y étais un petit peu, des fois je reviens, des fois je repars, c'est un peu en pointillé LinkedIn, mais plutôt sur Instagram, parce que je trouve que c'est une plateforme justement pour les décoratrices d'intérieur qui est assez bien parce que c'est visuel en fait. Nous, on a vraiment besoin de ça. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du avant-après de projet, donc plus présente quand même sur Instagram.
Quel est le avant-après de projet qui t'a le plus fait vibrer humainement? Une histoire où tu sens qu'il s'est passé quelque chose de particulier?
J'aime beaucoup ta question. ça a été une rencontre d'une dame, justement, qui peut peut-être m'amener à parler d'un projet qui va arriver bientôt, qui s'appelle Nathalie, et qui m'a appelée à l'aide pour finaliser la décoration en fait, de son intérieur à Huisseau-sur-Cosson. Donc, c'est une résidence secondaire, et elle a commencé les travaux, il y avait une dizaines d'années. Elle a eu pas mal de péripéties un peu malheureuses dans ces 10 ans, ce qui fait que les travaux en fait ont pris du retard. Et elle avait quand même vraiment à cœur de terminer cette maison. Et moi, je suis arrivée à un moment donné où il fallait choisir les couleurs des murs, les papiers peints, etc. Et ça a vraiment été une super rencontre. Une femme qui a le cœur sur la main et qui tout de suite m'a fait une confiance aveugle dans ce que je lui présentais. Elle a vraiment mis toute sa confiance en moi et ça a été hyper agréable parce qu'en fait on a pu mener le projet de A à Z en travaillant vraiment main dans la main. Et en fait, pourquoi ça me touche d'autant plus? Parce que du coup, grâce à Nathalie, en fait, j'avais un projet en tête depuis assez longtemps qui était de mettre justement l'artisanat en avant. Donc j'ai eu plusieurs idées par rapport à ça. En fin d'année 2024, je me suis dit, allez, on y va, ça va être pour 2025, lance ton idée. Donc j'ai lancé Secret d'intérieur. Donc c'est un salon qui va être un événement immersif en fait autour de l'artisanat, l'artisanat d'art et le patrimoine. Parce qu'en fait l'événement va se tenir justement dans la maison de Nathalie. Pour moi le projet je le voyais que chez elle. Et pourquoi? Peut-être tu vas me demander.
Je trouve que ton idée est extrêmement originale. C'est vrai, souvent les salons, c'est dans des endroits froids qui servent absolument à tout et à rien du coup.
C'est ça. Justement, c'est aussi pour ça que ça a pris du temps, je pense, à germer, etc. Parce que je voulais pas d'une salle des fêtes, en fait. Je trouve que souvent, les artisans, ils étalent leurs magnifiques œuvres ou créations sur des tables en plastique, des nappes blanches. Et en fait, dans des lieux, comme tu dis, froids. Et en fait, ça met pas en valeur l'artisan, son travail, etc. Et j'avais vraiment à cœur de faire ça autrement. Et en fait, la maison de Nathalie, donc elle m'a révélé cette histoire, ce pan de l'histoire. En fait, sa maison faisait partie d'un ancien château, donc le château de Villeneuve, qui par le temps, en fait, a été séparé en plusieurs lots. et dans le lot dans lequel elle habite aujourd'hui, aurait été, à un moment donné de l'histoire, donc dans les années 1500, la garde-robe de Catherine de Médicis aurait été dans cet endroit-là, tenue par un garde qui vivait là, en fait, avec sa famille et qui gardait la garde-robe de Catherine de Médicis. Et donc, c'est un fait de l'histoire que je trouve extraordinaire. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être dans ce lieu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer mon événement dans ce lieu. Et je lui ai parlé de ce projet en fin 2024. Et tout de suite, elle m'a dit, mais go, on y va, j'adore l'idée. Et voilà, donc le projet est en cours et ça va être une chouette aventure.
Et vous avez fixé une date ?
C'est un projet que je monte conjointement, bah, justement, avec Keltoum Duga. On monte le projet à deux. Et les dates, donc, c'est le 26 et 27 avril 2025.
Eh bien, c'est noté, nous te rejoindrons. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré.
Merci
Vanessa,
à toi, merci
Sophie,
beaucoup.
Et Clara, très, très Christelle, salon. Isabelle,
merci.
Stéphanie.
Merci Sophie, au revoir.
Et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.